Il me semble que ça fait vraiment une éternité que je lui ai pas parlé, Dr. Claudia Forget.
Bonjour!
Médecin vétérinaire aux cliniques Anima Plus à Gatineau, deux cliniques ici. Ben oui, il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est parlé.
Ben oui.
Je suis toujours malade le vendredi.
Ben exactement, j'étais inquiète, alors je suis descendue au poste de radio voir s'il était encore vivant.
C'est vrai que vous êtes en studio aujourd'hui, puis habituellement, c'est pas en studio, évidemment. Vous êtes en petite tournée, en toi?
Oui, oui, on vient dans nos cliniques assez souvent, donc là, ça a donné que c'était le vendredi.
Bon, mais c'est occupé des cliniques au printemps, parce qu'il y a bien des affaires qui se passent, là.
Exactement, le printemps, c'est l'éveil de la nature, donc c'est l'éveil des puces, l'éveil des tiques, bon. On va en parler.
Bien, on va en parler tout de suite, d'ailleurs. Ah, oui, tout aussi bien, parce que c'est un sujet d'actualité. Puis, puis moi, le premier, avec Bubble, je suis mêlé. Je suis mêlé dans le sens de « OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-tu que j'attende un appel? Ça me prend-tu un rendez-vous? Pourquoi c'est important? Comment je fais ça? C'est-tu une pilule, une piqûre, un vaccin, un suppositoire? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi ça. »
OK, on part avec la première question. Dans le fond, oui, la tique, en tant que telle, c'est un petit insecte qui se promène depuis quelques années à cause du réchauffement de la planète. C'est monté jusqu'à chez nous. Et cette tique-là, à part d'être laide et d'être petite et de piquer, elle porte aussi des maladies. Donc, il y a plusieurs tiques. Il y a la tique à chevreuil. C'est elle qui porte la moseuse de maladie de Lyme.
Okay.
Donc, la maladie de Lyme qui atteint autant les humains que les animaux. Il y a aussi d'autres maladies qu'on parle moins, mais il y a l'anaplasmose, l'ehrlichiose, qui sont des maladies qui causent de l'anémie. Et puis, ces maladies-là sont portées aussi par d'autres sortes de tiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des animaux? C'est qu'on les protège soit par un vaccin contre la maladie de Lyme, mais ça ne protège pas à ce moment-là contre l'anaplasmose puis l'ehrlichiose. On va les protéger avec un comprimé, un produit qui va tuer la tique aussitôt qu'elle touche à l'animal.
OK.
Donc, c'est comme ça qu'on les protège. Et on se dit, bien, quand est-ce qu'on protège ça? Parce que là, il y a de la neige. Pourquoi on ferait ça là? Bien, sachez qu'à partir de 4 degrés Celsius, elles se réveillent dans la nature. Donc, elles ont la vie tough. Et à partir de 4 degrés, elles décident d'avoir faim. Là. Ils ont faim au printemps. Là. Ils dormaient cet hiver. Et ils se nourrissent. Et on a des preuves de ça. D'ailleurs, la semaine passée, dans une de nos cliniques, il y avait un chien qui est arrivé avec une tique parce qu'il avait fait chaud quelques semaines avant. Donc, quand ils piquent, on ne les voit pas. Elles sont très, très petites. Et à mesure qu'ils se prennent un repas de sang, ils vont grossir.
Hey boy! OK. Ça vit où, ça? Là? Parce que vous me dites que ça se réveille, mais pendant l'hiver, où là, ça se réveille, ils sont où? Dans l'arbre, dans le gazon?
Ils sont vraiment un peu partout. chez nous, j'en avais dans la haie de cèdre. C'est certain, mon chat va sur le bord de la haie de cèdre et revient avec des tiques.
Hein?
Donc, il y en a à même la maison. Mais souvent, on va dire que c'est sur des sentiers. Quand vous vous promenez sur les sentiers, il y a des herbages. Les tiques sont très... ils vont choisir leur proie par rapport à la chaleur qu'ils dégagent. Donc, ils vont être sur le bord d'un brin d'herbe. Et quand ils vont sentir un animal à sang chaud passer, ils ont des senseurs assez exceptionnels. Ils vont se laisser tomber sur l'animal qui est là. Ils sont très, très petits. Autant l'humain. Hein? On a des humains qui ont la maladie de Lyme. Oui. Ça a passé d'ailleurs dernièrement là, dans la presse.
OK. Ça, c'est pour chien et chat?
Oui. Mais par contre, on voit que le chat est toujours différent. Et le chat, dans ce cas-là, il ne fait pas de maladie à date, à ce jour. On n'a pas trouvé de maladie de Lyme vraiment chez le chat. C'est vraiment le chien qui est plus touché.
Bon, là, comment ça marche? Là, les gens nous écoutent, puis ils ont un chien.
Oui.
Moi, j'ai Bobo.
Ben oui.
Bon. Là, je fais quoi? Moi, je suis suivi en clinique.
Oui.
Je m'en vas-tu là demain matin prendre un rendez-vous? J'appelle-tu pour un rendez-vous? J'ai-tu un rendez-vous annuel puis ça va être inclus là-dedans? Comment ça marche?
Disons que pour l'instant, on aimerait beaucoup que les gens le fassent annuellement parce qu'on se rend compte que ça ne tient plus là, de dire on va traiter nos animaux 4 degrés plus, donc de mars à novembre. C'est à peu près la saison. Mais on se rend compte depuis déjà quelques années qu'il fait chaud. En 2015, à Noël, il y en avait qui sautaient dans la piscine. Je me rappelle, mon fils a fait ça, mais il faisait 15 degrés. Donc, ça veut dire qu'il y en avait des tiques qui se sont réveillées à ce moment-là. On recommande aux gens de traiter à l'année contre les puces et les tiques. Sinon, ben, dans ce temps-ci, là, c'est vraiment
attendez,
le temps.
Traiter à l'année, ça veut dire que c'est pas une pilule, c'est une pilule par mois?
Oui. Ben, il y a différents produits. Il y en a qui sont donnés mensuellement et il y en a un qui se donne aux 3 mois. C'est un peu moins fatigant. On le donne aux 3 mois, puis on est certain qu'il n'y aura pas de problème.
Je comprends. Fait que dans le fond, on peut traiter, il n'y a pas de problème, on peut traiter à l'année. Donc, oui. C'est-à-dire pas une fois par année, mais plutôt oui. À intervalles.
Exact. Et ça ne demande pas nécessairement de rendez-vous. Parce que si vous avez un dossier ouvert avec votre vétérinaire et puis et vous êtes constant dans vos examens annuels, tout ça, c'est un produit qui ne demande pas à avoir un examen pour avoir le produit.
Je comprends. Puis ça s'appelle comment le produit qu'on donne?
Il y a différentes compagnies.
OK. Puis c'est une pilule?
C'est... Oui, oui, c'est un bonbon.
Bon. Il n'existe pas un vaccin?
On a un vaccin contre la maladie de Lyme.
OK, mais pas le tic.
Non, parce que là, ça s'avère que c'est un... On veut empêcher un insecte de venir sur nous. Donc, il n'y a pas de vaccin contre ça.
Ça n'existe pas encore?
Non.
Tu vas l'inventer?
Peut-être.
Hein? Bien, ça, c'est un bon conseil. Là. Fait que je résume, là. Vous avez un chien, occupez-vous de ça. Appelez votre vet, là, puis peut-être, puis décidez comment le protéger, si c'est une pilule par mois ou une ou trois mois. Mais puis vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous si vous êtes assidu à vos rendez-vous annuels. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé voir votre vet, peut-être en profiter. Mm. Parce que là, il y a aussi des vaccins annuels. Dans notre examen annuel, il y a tout ça qui va. Il y a d'autres vaccins qui vont arriver annuellement.
Oui, puis l'annuellement n'est pas tout le temps à la bonne période, c'est-à-dire au mois de mars. Là. Les vaccins peuvent être dus en septembre, donc c'est deux choses différentes.
OK, fait qu'attendez pas à la rencontre annuelle. OK, parfait. Good. Bon point. Là, je veux parler d'une autre affaire.
Oui.
Bon, on a vu là les noms de points importants, là, parce qu'à Montréal, il y a une petite fille qui joue dans un parc, puis finalement, il y a un gars qui laisse son pitbull à sa mère. Sa mère échappe le pitbull défigure la petite fille. On a eu une dame qui a été... manger tout rond à Montréal par le pitbull. Puis là, ça a parti, cette affaire-là. Il faut interdire les pitbulls. Puis bon, Denis Coderre était parti là-dessus. Puis là, il y a un projet de loi déposé par Martin Coiteux qui est en commission parlementaire présentement. C'est le projet de loi 128 pour interdire les chiens dangereux, dits de race pitbull, etc., etc. L'opinion des professionnels là-dedans, notamment les vétérinaires, vous en pensez quoi des chiens pitbull? Un chien pitbull, ça dépend... Est-ce que la dangerosité du chien dépend du maître ou est-ce qu'il y a des races plus dangereuses que d'autres?
Bien, lors de la commission...
parlementaire?
Parlementaire, le docteur Kisdon, qui est notre présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires, je suis assez d'accord avec ce qu'elle disait. Dans le fond, ce n'est pas une question de race. Et quand on va fesser sur le clou de la race, on va vraiment se tromper. Parce que ce n'est pas une race en particulier qui peut faire des problèmes. Puis là, on en a trouvé une deuxième. Là, ils ont rajouté une deuxième. La faisabilité première des choses de trouver un pitbull, un croisement pitbull, il y a des pitbulls croisés qui ressemblent à des labradors, ça ne sera pas faisable d'appliquer une loi comme ça. Et on va vraiment aller à côté de la chose. Parce que notre point principal, c'est la sécurité des gens. Et ce n'est pas seulement le pitbull qui peut mordre. Et il y a bien des pitbulls qui sont gentils aussi. Donc, il faut vraiment y aller, je pense, par la responsabilisation de la propriétaire ou du propriétaire du pitbull.
D'ailleurs, parenthèse, l'événement en question dont je parle, la petite fille mordue par le chien, défigurée, le pitbull, l'homme finalement qui est accusé, a eu 4 ans de prison ce matin. Imaginez ça, là.
Oui, c'est important. Donc, ça lance un message à ceux qui laissent leur chien impunément se promener quand ils le savent, qu'il y a des dangers. Oui, ça, c'est super important. Puis ça va passer par plein de points. Il y avait 3 recommandations que l'Ordre des médecins vétérinaires disait au niveau de la commission.
D'accord.
Il y avait s'assurer de bien connaître les éleveurs. On voulait ajouter des points à cette loi-là, dans un registre, savoir les éleveurs qu'on a, être capable d'aller les visiter, de s'assurer que ce n'est pas des éleveurs qui poussent les chiens les plus agressifs à se reproduire pour avoir, à un moment donné, une génétique agressive dans leur élevage. Donc ça, c'est super important de ce côté-là. Ensuite de ça, il y avait... les registres, le micropuissage obligatoire des animaux. Donc, exemple, un chien qui serait banni d'un territoire, mais avec le micropuissage, on pourrait retrouver que présentement, il fait du tort ailleurs. Il y aurait des conséquences encore plus graves, autant au niveau des gens qui auraient le chien qu'au niveau de l'élevage. Et puis, la diffusion d'une vaste campagne d'éducation, c'était leur 3e point. C'est super important que les gens sachent comment on choisit notre chien, où est-ce qu'on le prend. La sociabilisation, c'est super important dans les premières 16 semaines d'âge, où est-ce que là, on éduque notre chien à aimer les gens, à ne pas vivre trop d'anxiété. C'est important dans leur développement. On en avait déjà parlé de ça. Et la connaissance du langage. La connaissance du langage du chien, quand le chien ne veut pas, quand le chien est agressif. Tout ça va faire que le public averti va pouvoir justement diminuer ses risques de morsure.
Fait que vous, chez vous, là, à l'Ordre, c'est vraiment pas via un projet de loi pour interdire certaines races qu'on va régler la problématique.
Il va toujours y avoir des gens qui vont se faire mordre avec un projet de loi comme ça. C'est encore plus dangereux, je trouve.
Vraiment.
Il faut vraiment y aller avec, vraiment donner la priorité que les gens qui ont des qui sont propriétaires de certains chiens soient mis au courant que leur chien a un problème. Des fois, là, ils l'aiment tellement qu'ils ne voient pas qu'il est un problème.
Mais d'un autre côté, Dr. Forgette, la mâchoire, physiquement, là, la mâchoire d'un pitbull, prenons l'hypothèse que le shih tzu va mordre aussi, puis le pitbull.
Ouais.
Je veux dire, il va me faire moins mal, là, le shih tzu, même s'il mord.
Un shih tzu peut défigurer un visage d'enfant.
Ah ouais.
Ben oui, un petit visage d'enfant à la hauteur du shih tzu. Là, le shih tzu n'est pas content, il est allé jouer dans sa nourriture. Le petit chien a des signes d'agressivité que les propriétaires ne peuvent pas reconnaître.
Ouais.
Ça prend pas beaucoup de temps, là. Quatre crocs dans le visage, ça descend, puis tu as des cicatrices pour le restant de tes jours. Donc, c'est pas de faire peur aux gens puis de dire « ayez pas de chien », c'est pas ça. C'est juste qu'on apprenne le langage du chien pour être plus sécuritaire.
Puis, y a-t-il différents types d'agressions chez les chiens?
Il y a différents types d'agressions, effectivement. On parlait d'agression de distancement. Ça, c'est des agressions qui peuvent peut-être être plus faciles à éliminer.
OK.
C'est des agressions où est-ce que les animaux vont avoir peur et ils vont vouloir distancer les gens. Donc, on les entend japper, tout ça. Ils ont peur. Et c'est sûr que si les gens apprennent à voir ces choses-là, tu as juste comme à ne pas t'approcher, souvent, ça va régler le problème.
Il faut être capable de lire le chien.
Exactement. Hein? Puis, il y a l'agression de prédation qui est beaucoup plus rare. Le chien, à ce moment-là, va voir la personne comme une proie. Et les blessures sont beaucoup plus sévères avec ce genre de prédation-là. Il y a des facteurs, par exemple, qui font qu'un chien va mordre, va être agressif. Un chien très réactif, un chien qui est de naissance très réactif, des maladies mentales chez les chiens. On comprend moins bien que chez l'humain, puis on a moins de façons de les trouver, mais on sait que certains chiens ne sont pas complètement là. Là.
Fait
qu'il existe de ces problèmes-là. La génétique, on ne peut pas le nier, dans le fond. L'anxiété, on en a parlé, c'est une façon qui fait que le chien pourrait mordre. Les méthodes d'éducation. Avant, on éduquait beaucoup nos chiens avec des méthodes un peu plus...
Punitives.
Choker, punitives, effectivement. Les méthodes, maintenant, sont beaucoup plus positives pour le chien, puis ça lui met moins d'agressivité là, au corps.
Mais un petit peu plus de gras dans la bédaine.
Ouais.
Parce qu'on lui donne des bonbons.
Ouais. C'est vrai. Puis la maltraitance, naturellement, ça peut faire qu'un chien qui a été maltraité, finalement, à un moment donné, change sa façon de voir l'humain, puis devienne agressif. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, autant chez l'animal, mais beaucoup, beaucoup plus chez l'humain.
Bien, c'est ça. Puis j'espère que le verdict de ce matin va faire prendre conscience aux gens là, que ben, faut faire attention. Puis aux gens qui sont propriétaires de chiens, il faut s'en occuper du chien. Puis, tu sais,
c'est une responsabilité.
Bah, ouais. Puis l'autre chose aussi, j'espère que ça fait prendre conscience aux gens qui n'ont pas de chien, puis qui croisent des chiens, que tu n'abordes pas un chien n'importe comment quand tu ne le connais pas.
Mm.
Moi, je le vois, là, je suis chanceux, là, Bubble, il est doux, là, mais du monde qui arrive, là, puis... comme humain, moi, j'aimerais pas ça, me faire prendre la queue comme ça, là, par en arrière. Puis,
ouais,
tu sais. Ils
se mettent le visage, les enfants ont tendance. Oh, le beau chien, puis il arrive tout de suite au visage, il s'accote dans le cou. Ouais, ça va être une. Si les gens prennent au sérieux ce qu'on est en train de dire à cette commission parlementaire-là, il devrait y avoir beaucoup de sensibilisation. On en fait dans les écoles en tant que vétérinaire. On a vraiment. On va voir les jeunes pour leur expliquer les différents faciès des chiens, la morphologie, tout ça.
D'ailleurs, peut-être que je peux vous demander un petit avant. J'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si c'est vrai, on va terminer là-dessus, mais on avait un genre de charte avec des comportements canins.
Oui.
Puis l'interprétation de ce que ça voulait dire. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, moi. Le chien s'en vient, puis il s'assoit sur tes pieds. Il se colle, puis il s'assoit sur tes pieds. Ça veut dire quoi? Le chien, je ne sais pas, moi, une autre affaire. Pardon?
Dans le fond, ça serait bien ce genre de charte-là où est-ce que les gens qui ont des animaux devraient peut-être...
Tu sais, un chien qui va absolument se coucher sur toi pendant que tu regardes la télé ou un chien qui te boude. C'est quoi un chien qui boude? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Peut-être on pourrait jaser de ça une bonne fois.
Ben oui, certain.
Excellent. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir passé en studio. Vous voyez, je ne suis pas si pire.
Il va s'en sortir.
Ben oui.
Je sécurise nos auditeurs.
Docteur Claudia Forgette. Médecin vétérinaire, directrice médicale, dans les deux cliniques vétérinaires d'Anima Plus, ici, en Outaouais.